Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Chronique d'un divorce annoncé, c'est par un communiqué d'un peu plus de 2 lignes qu'a été annoncé l'éviction de Virginie Calmels de la présidence du Parti Les Républicains. La première adjointe à la mairie de Bordeaux paye pour ses critiques de plus en plus nombreuses et virulentes à l'encontre de Laurent Wauquiez, le président du parti.
Vous choisirez bien un sujet en philo ou en français, c'est le coup d'envoi aujourd'hui du baccalauréat pour plus de 753 000 candidats dans les filières générales technologiques et professionnelles. Et c'est un bac sur fond de grève à la SNCF. Un dispositif spécial a été mis en place pour d'éventuels retardataires avec la tolérance comme mot-clé, vous l'entendrez.
La droite dure récupère la présidence en Colombie et son champion Iván Duque, vainqueur d'un duel inédit face à la gauche, annonce des corrections à l'accord de paix signé avec l'ex-guérilla des FARC. La présentation ce matin de la loi Pacte portée par le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui veut déverrouiller le fonctionnement des entreprises et accélérer la croissance. Dans son billet économique à la fin de ce journal, Jean-Marc Chardon nous dira pourquoi le gouvernement a choisi cette formule de pacte pour changer l'image du capitalisme.
Et puis dans une quinzaine de minutes, Catherine, la question du jour, les associations sont-elles les victimes collatérales de la suppression de l'ISF? On posera la question à Axelle Davzac, qui est directrice générale de la Fondation de France.
Elle avait pourtant fait campagne avec Laurent Wauquiez pour le retour d'une droite qui soit vraiment de droite. Virginie Calmels a été limogée hier soir de la vice-présidence chez les Républicains. Elle qui multipliait les critiques depuis une semaine contre le patron Laurent Wauquiez, tant sur le fond que sur la forme. Virginie Calmels, qui est aussi la première adjointe d'Alain Juppé à la mairie de Bordeaux, représentante de la sensibilité libérale pro-européenne au sein des LR, avait publiquement qualifié d'anxiogène un tract intitulé « Pour que la France reste la France ». Après une nouvelle sortie hier dans les colonnes du Parisien, la critique de trop, Virginie Calmels a donc finalement été limogée par Laurent Wauquiez. L'ancien ministre Jean Leonetti a été nommé à la vice-présidence de LR. Bonjour Frédéric Seix.
Bonjour.
Cette éviction de Virginie Calmels, c'est donc la chronique d'un divorce annoncé?
Oui, qu'il semble loin ce moment où l'on voyait le duo Wauquiez-Calmels tout sourire gravir le mont Mézin en Auvergne. C'était il y a 9 mois et cela se voulait le symbole du rassemblement dans cette famille politique qui sortait d'une année mortifère après la campagne de François Fillon. Mais très vite, la cohabitation a tourné à la crispation, d'abord de manière feutrée dans ses interviews. Virginie Calmels défendait Laurent Wauquiez, mais elle expliquait aussi qu'elle refusait une droite qui se renferme, qui se méfie de l'Union européenne et du libre-échange. Une manière de se distinguer des envolées eurosceptiques de son patron. Mais rien n'y a fait, Laurent Wauquiez a persévéré dans ce sillon à la droite de la droite. Virginie Calmels n'a pu qu'assister impuissante à cette stratégie jusqu'à la diffusion de ce tract au début du mois de juin. Il est intitulé « Pour que la France reste la France » et dénonce pêle-mêle l'insécurité et l'immigration. La numéro 2 de LR prend alors publiquement ses distances. Elle regrette à la fois la tonalité du message, mais aussi le fait de ne pas avoir été consultée. La garde rapprochée de Laurent Wauquiez lui reproche cette sortie médiatique, un manque de solidarité, comme si la vice-présidente du parti jouait les agents doubles, Catherine. Mais Virginie Calmels insiste et dans le journal Le Parisien hier, elle hausse encore le ton. Laurent Wauquiez semble être uniquement là pour défendre sa propre ligne, dit-elle. Un crime de lèse-président chez LR qui lui vaudra donc la porte de sortie.
Est-ce une manière, Frédéric, de rassembler la famille LR sur un socle de droite qui soit vraiment de droite à moins d'un an des élections européennes?
Alors sur le fond, ça ne change pas grand-chose. Virginie Calmels était réputée dynamique, travailleuse, mais elle n'avait pas vraiment de troupe autour d'elle. Elle a apporté sa petite musique, mais n'a jamais vraiment infléchi la ligne politique du parti. Il en sera donc de même pour Jean Leonetti, le nouveau numéro 2. Une présence symbolique de la sensibilité centriste au service d'un parti qui compte clairement s'imposer sur les thèmes de la droite sécuritaire et régalienne. Laurent Wauquiez vient d'ailleurs de démontrer que cette stratégie ne souffrait pas contestation. En revanche, sur la forme, le limogeage va bien sûr alimenter les critiques contre une pratique du pouvoir autoritaire de Laurent Wauquiez, une incapacité à entendre la dissonance, voire la différence. Et il sera désormais bien difficile au patron de LR de critiquer la pratique verticale du pouvoir chez Emmanuel Macron.
Frédéric Seix, merci pour ces explications. Vous reviendrez d'ailleurs sur ce sujet dans votre billet politique à 8h16. Et parmi les réactions à l'éviction de Virginie Calmels de la vice-présidence de LR, Alain Juppé, le maire de Bordeaux, a salué sur Twitter le courage et les convictions de celle qui est également sa première adjointe. Richard Ferrand, le patron des marcheurs à l'Assemblée, a lui ironisé sur l'arrivée de Jean Leonetti au poste de numéro 2 du parti. Bien connu pour ses travaux sur la fin de vie, nul doute que Jean Leonetti pourra éclairer la direction du parti de Laurent Wauquiez sur son avenir. Ils sont 753 148 lycéens et candidats libres à passer le bac cette année, un nombre record en hausse de 5% par rapport à 2007, qui s'explique par le baby-boom de l'an 2000 et par une hausse du taux d'accès à ce niveau de diplôme. Comme chaque année, la philo est la première épreuve écrite pour les candidats au bac général, 53% des candidats, et dans les filières technologiques, 21% des postulants. Les lycéens de la voie professionnelle vont, eux, plancher sur le français. Et pendant la durée des épreuves du bac, la plateforme Parcoursup est suspendue pour que les candidats puissent se concentrer pleinement sur leurs révisions et leurs épreuves, indique le ministère de l'Enseignement supérieur après de nombreuses critiques sur les inégalités de traitement des lycéens entre la banlieue parisienne et la capitale, par exemple. Et puis, stress supplémentaire pour certains candidats qui doivent prendre le train pour se rendre à leur centre d'examen en ce jour de grève à la SNCF. Si l'UNSA et la CFDT appellent à suspendre le mouvement pendant le bac, ce n'est pas le cas de la CGT et de Sudrail. Le ministère de l'Éducation nationale appelle les candidats à anticiper les difficultés autant que possible et un dispositif spécial a été mis en place, comme l'explique Jean-Marc Huart, directeur général de l'enseignement scolaire.
Le maître mot dans ces cas-là, c'est le mot de tolérance. Donc nous acceptons pour ces raisons-là les élèves jusqu'à une heure après le début des épreuves, c'est-à-dire jusqu'à 9h quand l'épreuve commence à 8h ou jusqu'à 15h quand l'épreuve commence à 14h. Nous notons l'heure d'arrivée de l'élève sur la copie de manière à ce que les correcteurs sachent que l'élève est arrivé en retard. En cas de situation tout à fait exceptionnelle, à ce moment-là, nous verrons s'il est possible d'accorder un temps supplémentaire aux élèves. L'important, c'est véritablement que les élèves puissent être corrigés dans les meilleures conditions possibles, dans une situation qui ne les laisse pas. Si les élèves peuvent avoir un justificatif, c'est quelque chose d'extrêmement important, mais c'est au responsable de centre de juger s'il accepte ou non l'élève dans le centre d'examen.
Jean-Marc Huart, directeur général de l'enseignement scolaire au micro d'Hakim Kasmi. Et j'ajoute que les élèves de première dans les filières technologiques ou générales, soit 537 000 candidats, passeront eux l'épreuve écrite de français cet après-midi.
Vous écoutez les matins de France Culture, il est 7h07, c'est la suite du journal de Catherine Dutu. Ceux qui le souhaitent pourront déposer une demande d'asile en Espagne.
Les 630 migrants de l'Aquarius sont arrivés hier dans le port espagnol de Valence à bord du bateau de l'ONG SOS Méditerranée et de deux navires de la marine italienne. Mais ce voyage très éprouvant aurait pu leur être épargné, selon Ludovic Duc-Pérou, marin sauveteur sur l'Aquarius. Il dénonce l'inaction criminelle des dirigeants européens pendant plus d'une semaine.
On a eu beaucoup de colère, surtout quand il y a eu du mauvais temps, qu'on a dû porter les gens parce que ça remuait trop et on a dû les mettre à l'intérieur. Et tout le monde était malade, en train de vomir. Donc beaucoup de colère contre les personnes qui prennent ces décisions-là. Moi, je leur demande de venir une minute sur le pont, là. Il fait 40 degrés, on n'a même pas d'ombre, on n'a rien sur un pont en acier. Il faut 3 heures pour aller aux toilettes, il faut 3 heures pour manger. Tu n'as pas de place pour dormir. Et après, on te transfère, tu sais pas où tu vas, tu es anxieux, tu as ta famille avec toi. On te transfère sur 3 bateaux et tu vas encore te faire démonter dans le mauvais temps devant. Ouais, là, il y a de la colère. Donc ceux-là, là, je leur demande de venir. Les personnes qui prennent les décisions de fermer les yeux et de ne pas accueillir les gens. Les personnes qui ne respectent pas les valeurs que moi, quand j'étais gamin, j'ai eu la chance d'être né dans un pays libre. Et on m'a appris égalité, fraternité, liberté, pays des droits de l'homme. Eh ben là, je peux vous dire qu'on n'y était pas.
Ludovic Duc-Pérou, marin sauveteur à bord de l'Aquarius, au micro de Yann Gallic. Que vont faire maintenant les migrants? Reportage à suivre dans le journal de 7h30. La crise migratoire au menu par ailleurs demain d'un conseil franco-allemand entre Emmanuel Macron et Angela Merkel, la chancelière politiquement affaiblie dans son pays sur cette question. Ses alliés bavarois de la CSU veulent imposer un tour de vis à la politique migratoire en Allemagne. En Colombie, le candidat de droite Iván Duque a remporté hier l'élection présidentielle avec 54% des voix au second tour contre 42% pour Gustavo Petro, le candidat de gauche dans ce duel inédit. Iván Duque succède pour un mandat de 4 ans au président Juan Manuel Santos et après une campagne clivante, le jeune président de 41 ans qui se présentait comme le candidat des entreprises, Iván Duque annonce déjà des corrections à l'accord de paix signé avec la guérilla des FARC. Le reportage à Bogota de Marie-Ève de Teuf.
La Colombie, fidèle à elle-même, a voté à droite, mais le score historique réalisé par le candidat de gauche, Gustavo Petro, change la donne politique. Iván Duque, dimanche soir, a appelé au rassemblement.
Aujourd'hui, je veux remercier Dieu et le peuple colombien, parce qu'une nouvelle génération arrive au pouvoir pour gouverner avec tous et pour tous.
Le nouveau président a dit qu'il n'avait pas d'ennemis et affirmé qu'il ne mettrait pas à la poubelle l'accord de paix signé avec la guérilla des FARC. Il entend toutefois le modifier. Dans le camp Petro, les sentiments étaient partagés. Iván Duque est perçu comme la marionnette de l'ancien président Álvaro Uribe, très militariste. Laura, étudiante.
J'ai surtout peur pour l'avancée du processus de paix. Mais la gauche et les secteurs alternatifs, désormais, ont leur chance en Colombie. Les corrompus qui ont toujours gouverné ce pays n'auront plus la tâche facile. Il y a de l'espoir.
Sur les plateaux de télévision, les analystes en étaient d'accord. Le jeune et inexpérimenté Iván Duque va affronter une opposition revigorée.
Marie-Ève de Teuf à Bogota pour France Culture. Un triste anniversaire hier, le bloqueur saoudien Raif Badawi a entamé sa 6e année en prison. Cet homme de 34 ans a été emprisonné par le royaume saoudien pour avoir ouvert un blog militant pour une modernisation du pays et une plus grande libération religieuse. Condamné à 10 ans de prison et à 1000 coups de fouet, son incarcération avait ému la communauté internationale. Lauréat en 2015 du prix Sakharov pour la liberté, l'Observatoire de la laïcité de Saint-Denis et d'autres associations se sont réunis hier sur l'île aux Cygnes à Paris pour soutenir Raif Badawi, le reportage de David Ravier.
Libérez Badawi !
Posant pour la photo derrière une bannière de soutien, les représentants d'une trentaine d'associations s'affichent avec des portraits du blogueur à la main devant un monument hautement symbolique.
Je crois que tout le monde comprend la Statue de la Liberté. On aurait pu la faire sous la Tour Eiffel, mais la Tour Eiffel, c'est Paris. La Statue de la Liberté, c'est le monde.
Annie Sugier, la présidente de la Ligue du droit international des femmes.
On essaie de porter la voix de quelqu'un qui est à l'isolement, qui est un jeune blogueur, qui défend les droits fondamentaux. Nous voulons demander sa libération et nous le faisons au nom de plus de 100 000 signataires d'une pétition que nous avons adressée au président de la République.
Seules, ces associations n'ont pas assez de poids pour faire libérer Raif Badawi. C'est pour cette raison qu'ils appellent Emmanuel Macron à discuter avec son homologue saoudien ou encore à Anne Hidalgo de faire du blogueur un citoyen d'honneur de Paris afin de mettre cette histoire en lumière. Pour Fuzi Benhabib, le secrétaire général de l'Observatoire de la laïcité de Saint-Denis, cela fait partie du rôle de la France.
Nous sommes symboliquement au pied d'une statue qui en dit long sur l'histoire de ce grand pays qu'est la France, pays des droits de l'homme, pays des libertés. Il faut qu'elle le démontre tous les jours.
Les associations gardent bon espoir que Raif Badawi puisse être libéré avec l'accession au pouvoir du prince Mohamed Belsalman, un réformateur qui prétend vouloir assouplir les lois islamiques et faire rentrer l'Arabie saoudite dans la modernité.